Le samedi 25 février dernier, une journée a été proposée conjointement par le CCFD Terre Solidaire, la Pastorale des Migrants, le Secours Catholique Caritas France et le SFD. Le spectacle théâtral « L'arrivant et l'autre » est une pièce écrite par Éric Chevance et Michel Richard. C'est adjoint à eux pour interpréter la pièce, Daniel Stujan.
Attendre l'aurore. Regarder par la fenêtre le jour qui se lève enfin. Attendre la fin de la nuit. Guetter à l'oreille les bruits du dehors. Une voix, un chariot qui roule. Attendre que la douleur s'apaise, les yeux ouverts sur le mur vide. Attendre les heures qui passent. Les compter, les arpenter, dormir un peu ou plutôt s'assoupir d'un vague sommeil. Lukman attend. À Istanbul, dans une maison des voyageurs insalubre, il attend le bateau qui, cette nuit, lui fera traverser la mer Égée jusqu'en Grèce. Lui et quelques dizaines d'autres. Il a peur. Il craint le naufrage, les requins et même les crocodiles, lui a-t-on dit. Il attend, mais le bateau ne viendra pas cette fois. Il doit se cacher à nouveau, attendre une semaine, deux semaines encore, et puis il ne compte plus le temps. Attendre les fluides qui passent, ceux qui entrent, ceux qui sortent, tenter de suivre leur parcours dans le corps, regarder la tuyauterie externe, imaginer le réseau interne, dessiner en pensée des schémas, des cartes, des routes, des canaux, voir où ça passe, sentir où ça bloque, là où ça fera mal. Jawid attend. À Kaboul, il attend le départ. Il a quitté son village et négocié avec le passeur $6,500 pour aller jusqu'en Europe. Alors il attend le moment de partir, de tout quitter. Son pays, sa famille, son histoire. Il va partir parce que s'il reste, il sera tué par les talibans. Comme le dit son cousin Rouhani, qui lui aussi s'en va, la guerre a transformé les Afghans en peuple au cœur de pierre. Aujourd'hui, Jawid attend, caché dans la maison de sa sœur. Bientôt, il prendra la route des clandestins, sans savoir jusqu'où. Attendre que la douleur revienne. La pressentir d'abord, l'éprouver ensuite. Appuyer sur la sonnette d'appel, attendre, essayer de se détendre, de ne pas se crisper, de ne pas se tordre, de ne pas gémir. Attendre qu'elles arrivent, qu'elles rétablissent la circulation, qu'elles stoppent la crise. Reprendre son souffle, respirer, détendre ses muscles, fermer les yeux, attendre. Lukman attend de nouveau. La première tentative de passage a été un échec. Au mépris du droit international, ils ont été refoulés en Turquie par les gardes-côtes grecs. Javid, lui, a été expulsé. Retour à Kaboul. Retour vers le danger. Il se retrouve dans cette même maison. Il attend. Il hésite. Il revoit leur voyage, le passage de la frontière entre l'Iran et la Turquie, la difficile traversée à pied des montagnes kurdes, la peur, le froid, les doutes et aussi quelques rires, quelques signes d'espoir. Attendre le départ, la sortie, puis sortir et attendre de nouveau. Reprendre des forces, lentement, réfréner sa hâte, calmer son impatience, se sentir prêt et ne pas encore pouvoir. Jawid attend. Bientôt, il tentera sa chance à nouveau. Peut-être, s'il le peut. Le passage coûte désormais 8 000 $.
Je rêve ? Ou quoi ? Qu'est-ce que vous foutez dans mon lit ?
J'aurais voulu ne pas me réveiller. Ici, il faisait chaud, moi.
Qu'est-ce que vous me baragouinez là ? C'est pas possible, c'est du délire. Cassez-vous !
Ne criez pas ! Je ne parle pas votre langue.
Qu'est-ce que vous dites ?
Que me dit-il ?
De mon rêve ou de ma chambre ou de ce que vous voudrez. Mais sortez !
Je lui fais rentrer dans la tête que je ne peux pas, ne peux plus me battre. Comment ?
Comment ? On chasse quelqu'un, bordel, comment ?
Monsieur mon hôte, je suis épuisé. Vous comprenez ?
Je comprends rien de ce qu'il dit. Mais comment êtes-vous entré dans ma chambre ?
Si on avait une langue commune, pas sûr qu'il saisisse que d'abord j'ai sommeil.
Oh ben non ! Vous pouvez pas vous endormir comme ça ! C'est mon lit, c'est pas votre lit !
Je voudrais dormir encore un peu.
Mais c'est trop facile, ça. On s'impose, on s'installe, et moi là-dedans.
Pourvu qu'il n'appelle pas la police.
Mon portable. Et merde. Le numéro des flics, même ça, je ne sais plus.
Pas la police.
Mais dingue, cette histoire complètement dingue. Folle, dingue. Même le numéro des flics, je ne sais plus.
S'il vous plaît, n'appelez pas la police.
Il a peur ? Il a peur que j'appelle les flics ? Et je fais quoi, alors ?
Écoutez, votre maison était ouverte. Il n'y avait pas de lumière. J'ai cru qu'il n'y avait personne, alors.
Vous venez de quel pays ?
De là où je viens, un long voyage.
Tu crois, toi ? On se parle alors qu'on se comprend pas, ce qui s'appelle pas un mot ?
Qu'est-ce qu'il fait ?
On fait un café, ça nous réveillera.
Il est bon.
Il a l'air d'apprécier, c'est déjà ça. Oh, peut-être y voir plus clair.
Ouais, coup de fil.
Oh, décidément, ça n'arrête pas ce matin.
Qui peut bien être ?
Comment ? Lui dire ? Lui expliquer ?
Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais partir.
Mon rêve. Un coup de fil, et me voilà nommé à Simbabad. Envoyé en mission, chargé de mission à Simbabad.
Il parle de mon pays. Il parle de mon pays.
Ah, là, je peux pas vous garder chez moi. Je prends l'avion ce soir.
Moi, je suis un réfugié, et lui, il se prend pour un envoyé. Mais de qui, pour qui, Seigneur ?
Bon. On finit le café et on ne parle plus.
Bon, que vais-je devenir ?
Ah, ne me dites pas. C'est exaltant de ne pas savoir ce qui va m'arriver.
J'ai peur. Encore, ça n'arrête jamais.
Heureux de vous avoir rencontré, monsieur. Au plaisir.
Reste à me tirer. Me tirer au clair mon histoire et la conduire à son point final. Moi.
Je m'appelle Samraouit, j'ai 17 ans et je viens d'Érythrée. Avant-hier, j'ai passé un entretien avec l'association La Vie Active pour rejoindre l'hébergement des femmes et des enfants du centre Jules Ferry à Calais. Mais aujourd'hui, je dois quitter le camp de Steenvoorde parce qu'on le démonte. Je dois partir une fois de plus. Je ne sais plus vraiment ce que je fais là, sur la rocade portuaire. Je cherche sans doute encore à rejoindre l'Angleterre. Je n'irai pas. Je n'atteindrai pas ce but. J'ai été violemment percutée par un camion et je suis morte. Je venais ici pour essayer de mieux vivre. Pour tenter de vivre tout simplement, et je suis morte, comme d'autres avant moi, et sûrement comme d'autres après. J'ai déjà dépassé 50 ans, et je vis en France depuis ma naissance. Je n'ai jamais cherché à habiter ailleurs. J'ai toujours eu une famille, un logement, et les moyens de vivre sans inquiétude. J'habite loin de Calais, cette sinistre antichambre d'une hypothétique terre promise. Je ne connais de ce qu'on appelle la jungle que ce qu'en relate la presse et les récits ou les images qu'en ont rapporté quelques amis. Je suis souvent touché et mes convictions humanistes sont heurtées par tant de misère, tant de douleur, tant d'indifférence. Et puis je n'y pense plus. Je m'appelle Samraouit. J'ai 17 ans. Je viens d'Érythrée. Et je suis morte. Que savez-vous d'autre de moi? Que savez-vous de mes parents, de mes amis? Que savez-vous de mon voyage jusqu'ici, jusqu'à la mort, à Calais? Que savez-vous de mes terreurs, de mes douleurs, de mes froids de nuit? Que savez-vous de mes rires d'enfant, là-bas, à Asmara? Rien, sans doute. Pour vous, je ne suis que la jeune érythréenne, tuée par un camion, numéro 5 sur la liste des migrants morts suite à une collision avec un véhicule dans la région de Calais. La jeune fille pour laquelle, durant quelques minutes, votre cœur s'est serré. Et moi, pendant combien de temps penserai-je à elle? Hantera-t-elle mes nuits d'insomnie ou s'effacera-t-elle progressivement de ma mémoire, comme d'autres, avant elle? Comme tous ceux qui m'ont ému, qui m'ont révolté, qui m'ont fait verser des larmes, avant que le sourire ne me revienne, comme lorsque, un beau jour de mai, le soleil égaye le paysage. Nous ne pouvons vivre avec des morts, n'est-ce pas? Pourtant, il en reste toujours quelques traces, quelques sédiments déposés là, au fond de nous, et qui parfois remontent et nous envahissent. Elle s'appelait Samraouit. Elle avait 17 ans et venait d'Érythrée. Elle est morte près de Calais, renversé par un camion.
Soir et matin. La rue. Je rêve ou quoi? Lui encore. Il n'est pas clair.
Ce matin, je partais à Simbabad, chargé de mission. Et paf, comme mission, que dalle.
Dans son pays, on va mal. On boit. Du bien, on part ou pas. Mais c'est pire alors.
Je te dis pas, moi. Si je vois pas du pays, bah que je meurs, que je te dis.
Il va pas droit du tout. Il va tomber. Mais si je l'aide, que va-t-il m'arriver?
Là où j'en suis, j'ai besoin d'appui, bordel, au secours, merde!
Je vais vous aider, mais ne criez pas, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là?
Levez-vous.
Toi, ce matin sorti de nulle part dans mon lit, et là, ce soir, à matin, non mais j'y crois pas.
Ah, il me reconnaît.
Depuis, il a toujours pas appris le français. Hein.
Ça recommence. Pas un mot que je comprends. Fuis.
Oh là!
Oh!
Tu vas pas t'en tirer comme ça.
Lâchez-moi, s'il vous plaît.
Pourquoi tu me poursuis, moi?
Qu'est-ce qu'il veut?
Qui es-tu?
Lui dire que c'est le destin, pas plus. Lui est chez lui, et moi pas chez moi.
Bon, me calmer, tiens, pas, voilà 3 sous, et casse-toi.
Seigneur, est-ce une arme qui va me brandir au nez? Et merde!
Ah, j'ai claqué tout mon liquide au bar, mais quel con je fais là, là
non,
j'en peux plus.
Non, ne vous énervez pas. J'ai pas besoin d'argent.
Je sais plus comment dire. Là où j'en suis, je j'en peux pas. J'en peux plus. Lui, le poste qui me passe sous le nez pour finir, plus de flouze.
Je sais plus où j'en suis. Ni où je suis, ni ce que je veux. Si. Un peu de paix.
Bon. Ouh. Asseyons-nous sur ce muret. Et essayons de faire le point. Tu ne parles pas français, donc.
Comment s'y retrouver dans ce brouillamini?
Ça va pas être facile.
C'est invraisemblable. Quelqu'un écrit mon histoire et me force à la vivre.
Je vais te dire, à cet instant précis, je sais plus où j'en suis, là.
La première fois que je me retrouve avec un citoyen, pas avec un réfugié ou un flic.
Il veut que je l'héberge chez moi.
Ça ne change rien. En fait, je suis sans papier et sans langue.
Il était bien entré cette nuit sans que je sache comment.
Lui dire au revoir. Le remercier. Me trouver. Me retrouver.
Mais ferais-je partie de ces anonymes qui, à l'insu de leur plein gré, ouvrent leurs portes la nuit? Ou pas?
Rentrer au pays, je dirais, là-bas, pareil. Il y a des hommes et des humeurs. Monsieur?
Il veut que je l'héberge chez moi, mais bon.
Son trop calme m'inquiète.
La légalité là-dedans, je ne suis pas en train de faire une connerie en plus. Mais purée, la passe comprendre, c'est pire que tout.
Au revoir, monsieur. Je vous serre la main.
C'est pas Dieu possible, qu'est-ce qu'il me veut?
Seigneur, on peut en arriver aux mains.
Mais on s'en fout, j'y peux rien au monde. Lâchez-moi ou je vous en colle une.
Lâchez-moi.
Amiens-Paris, un intercité.
En voyage, ceux qui aiment rester seuls. J'avise à un compartiment vide. Juste avant le départ, ça bouge dans le couloir. Une femme avec un bébé dans les bras. Un homme avec une poussette la suit. Discussion dans une langue inconnue. Elle entre et lui essaie avec difficulté d'introduire la poussette dans le compartiment. Je l'aide puisqu'ils ont décidé de s'installer ici. Tout de suite, il me parle. Il porte un maillot bleu, manches courtes, Chelsea Football Club. Collier, bague, bracelet. Les cheveux rasés 5 cm au-dessus des oreilles. Une coupe de footballeur. Le sourire facile. Il parle avec un bel accent. Elle ne dit rien. Elle tient le bébé sur ses genoux. Le bébé a les yeux ronds. Il sourit. Lui parle encore. Il me dit qu'ils sont montés sans billets, qu'ils craignent le passage du contrôleur, qu'ils vont à Paris. Il doit aller à l'hôpital le lendemain, qu'il a déjà eu 4 opérations, à la jambe, à la tête, au cœur et aux yeux, et qu'il doit y retourner. Parfois, il ferme les yeux, s'endort quelques minutes. Il est épuisé. Puis il se réveille et parle à nouveau. Je ne sais que dire. Je pose parfois une question. D'où venez-vous ? Du Kosovo. Il est arrivé en France il y a 12 ans, toujours sans papier, donc sans travail, donc sans argent. Tout à l'heure, ils sont allés à l'hôpital d'Amiens demander du poudré pour le bébé. Je comprends que c'est du lait en poudre. L'hôpital n'a pas voulu en donner. Il donne des médicaments, pas à manger, et le poudré, c'est à manger. On n'a pas d'argent. L'argent, c'est pour le poudré et pour les couches du bébé. Nous, on mange du pain de temps en temps. Il dit toujours « le bébé ». Je demande son nom. C'est Asna ou Ashna. Je n'ai pas bien saisi. Une petite fille. Elle pleure maintenant. Ils la mettent dans la poussette, ils la bercent, mais elle ne se calme pas. Il sort le poudré, le mélange avec de l'eau dans le biberon. Elle boit, s'apaise. On arrive sur Paris. Il surveille le contrôleur qui, par chance cette fois, ne passera pas. Il sourit. Tout au long du voyage, je me suis interrogé. J'écoutais, mais je me demandais, qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'ils me racontent ? Ils n'ont pas d'argent, mais ne sont pas si mal habillés. La poussette semble neuve, ou tout du moins en bon état, ainsi que leurs vêtements. Sont-ils ce qu'ils disent être ? Et pourquoi me raconter tout cela ? Vont-ils me demander de l'argent ? La revoilà, cette méfiance qu'on voudrait repousser et qui revient quand même, comme un relent de xénophobie, une vieille peur. Peut-être mentent-ils, du moins partiellement. Et alors, qu'ont-ils à opposer à la violence qui leur est faite, cette hospitalité qu'on pourrait leur offrir et qui leur est refusée ? Ils ne m'ont pas demandé d'argent.
Comment Dieu est-ce possible ?
lui aussi. Aussi, lui, là.
Quel sens tout cela?
Quel sens à la vie?
On tôle. Moi.
Lui encore. Mais en cet endroit.
Qu'ai-je fait? Je vais voir dans un moment, je vais me demander qu'ai-je fait de ma vie. Je me le demande d'ailleurs.
Il est dans son pays. Et il se retrouve dans la même cellule que moi. Moi, pas d'ici. Mais d'où à la fin? Non, non, mon Dieu. Je peux pas me poser la question. Mais là, maintenant, tous les deux.
D'accord. D'accord, j'ai toujours voulu m'engager. Et à chaque fois qu'il fallait passer à l'acte, je cherchais l'entrée. Non, 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 pas la sortie. L'entrée. Le comment et le pourquoi, si tu préfères. Alors, on retrouve en cabane, c'est un bon rêve.
Monsieur de la police, si vous étiez là à cet instant de vérité brute, je vais vous dire. Je cherchais. Je cherche. Je chercherai toujours la sortie. Mais là, monsieur de la police, comment vont sortir? Mais qu'est-ce qu'il a? L'autre a bouché les yeux. C'est pas un film ici. Du vrai.
Fermez les yeux, fermez les yeux. Vite, lui, encore, lui. Bon, on se calme. Tu ne parles pas ma langue, je ne parle pas la tienne. On est quitte. Basta, fermez les yeux. Ils nous ont foutu au trou. Je m'en branle, on n'en a rien après.
J'ai toujours remarqué ça. Quand quelqu'un parle une langue que tu ne connais pas, on le trouve très bavard. Au moins, lui, il n'entend pas mes pensées. Je pense à toi, maman. Je pense à nous. Nous ne pouvons que nous croire, puisque nous ne savons plus où nous sommes, sinon séparés, de rêver.
Cet homme-là, ce mec-là, cet homme-là assis devant moi au cachot, je l'ai trouvé dans mon lit un matin, au réveil, entré par je ne sais où, et là, je me réveille, en pleine nuit, au Niouf, étranger, l'un à l'autre, avec en plus la barrière de la langue, mais dans la même cellule.
Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. J'ai passé je ne sais combien de frontières, de dangers, de trafic. Et stoppé net. Avec un de ces blancs. Tous ces blancs se croient plus rangés. Arrêtés ensemble, comme sur pied d'égalité, et foutus en duo à la cabane. Au bout de la troisième fois que je le prends, et par hasard, qui plus est.
Oh, ouais, je suis un citoyen libre dans un pays libre. Je ne peux pas accepter d'être balancé par-dessus bord comme n'importe quel migré. Mais qui êtes-vous pour que cela soit possible?
Mon Dieu, ce qui peut arriver. Peut-être heureusement que je ne comprends pas. Mon amour, je ne connais pas cet homme. Et je veux te retrouver. Ça, je le sais.
Bordel. Et qui est cet homme à la fin? Que vient-il faire dans ma vie?
Dans le petit cimetière où reposent mes grands-parents, juste en face de leur tombe, il y a une autre tombe avec un seul nom et deux dates. 1923-1993. Le nom est étranger. Kessler. Rokus Kessler. Un nom allemand. Voilà l'histoire de cet homme. Le soldat Kessler est incorporé dans la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, en 1939. Il a 16 ans. Fait prisonnier en 1944 à Rochefort, il est, comme Fernandel dans La Vache et le Prisonnier, placé dans une ferme. La petite ferme de mes grands-parents, à Sainte-Vertu, dans l'Yonne. Après la guerre, le prisonnier, libéré, tente en vain de contacter sa famille. Il écrit lettre sur lettre à la mairie de sa commune, sans réponse. Il rentre alors en Allemagne et ne retrouve pas son village. Il n'a pas perdu son chemin, non. Il ne le retrouve pas, car le village a été entièrement détruit par les bombardements alliés. Plus de maison, plus de famille, plus rien. Sans ressources, seul, il rebrousse chemin, retourne à la ferme et demande s'il peut rester. Dans les années 60, je suis un enfant et il fait partie de la famille. Il a sa chambre aménagée dans le corps de ferme, partage nos repas et travaille comme commis agricole. Je me souviens de ses longs cheveux gris, de son terrible accent, de son goût un peu trop prononcé pour la chopine, et surtout de son immense gentillesse, notamment avec nous, les petits, à qui il fait sans cesse des cadeaux. À la mort de mon grand-père, l'activité de la ferme décline, puis s'arrête. À son tour, ma grand-mère tombe malade et meurt. Lui reste au village, où il travaille comme maçon. Il est seul à nouveau. Nous allons encore le voir de temps en temps. Il est pour nous une sorte de vieil oncle original. Jusqu'ici, assez secret, il se révèle peu à peu. C'est un homme qui lit, se cultive, un homme qui s'intéresse aux arts, à l'astronomie, et qui, lors de ses congés, monte à Paris en mobylette pour passer une semaine au musée du Louvre. Puis il prend sa retraite. Petit à petit, il nous donne ses livres, de très beaux livres. Et puis il meurt. Il repose maintenant là, parmi ces gens qui l'ont accueilli, qui l'ont adopté, lui, l'étranger, le Boche, l'ennemi. Cette histoire parle d'un jeune homme, presque un enfant perdu, abandonné et recueilli par une petite communauté qu'il a adoptée, auprès de qui il retrouve une famille. Mais lui, qu'a-t-il vécu? La solitude, sûrement, et des pertes multiples, celles de ses proches d'abord, celles de son pays, de sa langue, et sans doute aussi de ses rêves d'enfant, de ses projets d'adolescent. Rokus Kessler ne se destinait certainement pas à passer sa vie là, dans un village d'une centaine d'habitants, quelque part en Bourgogne, à traire les vaches, à conduire le tracteur et à aimer des enfants qui n'étaient pas les siens.
Monsieur le juge,
traducteur,
permettez-vous de vous parler personnellement.
S'il vous plaît,
je vais vous dire, de par mon métier, je me suis révélé ce que je suis. Je suis donc professeur d'histoire et géographie. Et me suis plus particulièrement passionné pour cette dernière, au point que l'étranger est devenu aussi mon pays. Si bien que si je n'y retourne pas le plus souvent possible, c'est comme si j'étais fait. Bien sûr, je suis bien dans mon pays, mais cela, grâce à mes départs pour ailleurs. L'étranger me force à me retrouver, à voir être surpris par mes réactions. J'ai plaisir à être obligé d'avoir inventé des réponses à des questions que la plupart du temps je ne comprends pas. Et là, comprenez-moi, monsieur, me retirer face à l'individu qui débarque de je ne sais où dans mon lit et dont je ne vois pas un très grand mot. bien de quoi être désarçonné, je ne sais pas, interpellé, interloqué, ou même
conditionné,
saisi, en tous les cas, remué, et pour tout dire, désarçonné pour le moins.
Oui, vous en êtes certain.
Monsieur le juge, j'en arrive au fait. En vérité, nous ne sommes pas battus, je dirais plutôt que nous nous sommes débattus. Bon, peut-être un peu bruyamment. Comprenez-moi, je suis là, il est arrivé là, c'est un fait, ce qui fait que nous en sommes arrivés aux mains. Mais je ne porte pas plainte contre lui. Ceci dit, je ne porte pas plainte contre lui. Mais bon, j'avoue quand même, monsieur le juge, que l'arrivée inopinée d'un autre dans mon lit me laisse pour le moins pantois, et me direz-vous aussi bavard. Mais comment dirais-je, amusé, oui c'est cela monsieur le juge, amusé. Non, ne vous méprenez pas, je ne suis pas amusé d'être face à vous, mais confiant. La justice a trois voies, la mienne, la sienne, les solutions.
Vous dire, dans mon pays je travaille comme professeur dans un conservatoire de théâtre. Mon exercice préféré consistait alors à faire comprendre aux apprentis comédiens ceci. Comment, en tant que simple individu, pouvoir se retrouver à côté d'un conférencier. Cela sans pour autant le déranger, donc en l'amenant à ce qu'il continue de parler. Monsieur le traducteur répétait, j'ai l'impression que monsieur le juge ne comprend pas ce que je dis.
Voilà une commune paisible sur le bassin d'Arcachon, dans le département de Gironde. Voilà le préfet qui annonce l'arrivée d'une cinquantaine de migrants. Voilà le maire de la commune qui fait voter en conseil municipal un refus de recevoir ce migrant. Voilà l'opposition qui vote contre. Voilà des habitants qui contestent ce refus et d'autres qui l'approuvent. Voilà des manifestations, des prises de position, des prises de bec. Voilà la presse locale, puis la presse nationale qui relate l'affaire. Voilà des inconnus qui tentent d'incendier le site pressenti pour recevoir les migrants. Voilà le maire qui renvoie la responsabilité sur l'État, qui renvoie dos à dos les pros et les migrants, les anti-migrants. Voilà le maire qui se dit désolé de ce qui arrive. Voilà un maire qui a allumé la mèche d'un incendie qu'il a maintenant bien du mal à circonscrire et se voit aujourd'hui bien mari. Voilà une commune qui porte le nom du dieu grec de la guerre et de la destruction, un dieu que l'on représente armé, casqué, vindicatif, féru de violence, friand de plaies, de bosses et de morts. Et voilà une cinquantaine de migrants, d'arrivants, d'hommes et de femmes qui ont déjà connu mille souffrances, devant attendre que de minables querelles de clochers s'apaisent pour pouvoir, à leur tour, trouver quelque apaisement. Voilà.
10 ans après, si je ne me trompe,
vous parlez notre langue, maintenant.
Oui. Et aussi, j'ai appris celle de ce pays où nous nous retrouvons.
Si je vous disais, moi, je suis épuisé d'avoir à me concentrer pour pas comprendre grand-chose de ce qu'on dit ici, et résultat de ne plus savoir ce que je voudrais éventuellement dire ici. Enfin, vous voyez que...
Par quel coup du sort nous revoyons-nous dans ce pays ?
Émigré. J'ai émigré... Fuis, quoi.
Ah, comme moi, donc.
Si vous le dites.
Pourquoi ? Plus de travail ?
Un manque d'air. Plus de respiration, ou alors celle imposée par un État qui claironne sur tous les tons, les ennemis sont là. Que tu n'arrives à être persuadé que c'est toi l'ennemi, l'ennemi aussi de toi-même, que tu es prêt à te rendre. Ça vous fait rire. Je vais vous dire, ce qui me fait bizarre, c'est que... Enfin, je viens juste de m'en apercevoir, là, maintenant. Il y a 10 ans, je vous tutoyais.
Je ne m'en rendais pas compte. Je ne comprenais pas un mot de ce que vous disiez. Mais je me souviens bien. Nous nous parlions à tue-tête. Je ne vois pas comment dire plus justement. Tue-tête. À vrai dire, je voulais juste continuer à survivre.
Je m'excuse.
De quoi ?
J'aurais dû vous accueillir, oui. Vous accueillir. Au lieu de me débattre comme un hamster dans sa roue à vous aboyer dessus.
Les hamsters, ça n'aboie pas. Pardon. Là, on peut se permettre de se tutoyer. Lorsque j'ai retrouvé ma femme et que je lui ai dit que j'avais eu une histoire invraisemblable avec un mec que j'avais rencontré dans un lit, ça n'a pas du tout fait rire. On ne pouvait pas admettre qu'étant si épuisé, ayant trouvé une porte ouverte et sorti un lit, je me suis, il n'y a pas d'autre mot, évanoui.
Peut-être, mais tu ronflais. Et c'est ça qui m'a réveillé et aussi, bon, effrayé.
Mais à partir de là, nous nous sommes tellement charroyés de mots, chacun dans sa propre langue, inaudible pour l'autre, qu'on s'est retrouvé au poste, puis au tribunal.
La justice, elle a réglé l'histoire en nous faisant entendre que nous pouvions résoudre nos incompréhensions par nous-mêmes.
Et nous nous sommes séparés. Partis chacun de notre côté.
Pour nous retrouver 10 ans après. Au fait, tu fais quoi dans ce nouveau monde ?
Je participe.
Ah, tu participes à quoi ?
Toute discussion avant décision. Mais en gros, on essaye de réagir avant qu'on se trompe de dire « Oh, ça va mal finir ».
On qui ?
Ceux qui ne craignent pas de ne pas être majoritaire, mais qui croient aux paroles données, échangées, débattues, réfléchies, et ainsi entendues. Rassure-toi, tout autour de nous, nous ne sommes, c'est pas peu de le dire, pas aimés. Bon, j'ai dit, rassure-toi, c'était pour rire.
Et si je te demande, il y a danger ?
Bon, oui, il y a danger.
Alors, je préfère croire à des paroles données plutôt que de continuer à errer.
C'est dit.
Aujourd'hui, partout dans le monde, des murs, des barrières, des clôtures se montent. Si on les mettait bout à bout, cela dessinerait une enceinte de 40 000 km, exactement la circonférence de la Terre. Alors qu'on le sait, hélas, la guerre et la misère progressent. En Europe et dans le monde entier. Dans le même temps, heureusement, fleurissent en France, en Europe, des initiatives citoyennes, solidaires, simplement humaines. On peut citer les nombreux accueillants et bergères solidaires, comme Jeannette et Bernard à Lormont ou Caroline et Michel, qui, après avoir reçu chez eux durant un an Dawa, un réfugié tibétain, rejoint désormais par sa famille, ont accueilli successivement un exilé ougandais, un Kurde d'Irak, deux Afghans. Aujourd'hui, c'est Rafat, yéménite, qui vit avec eux. Il est arrivé il y a à peine un mois. On peut citer ces collectifs citoyens qui ouvrent des squats, occupent des lieux vacants, les aménagent et accueillent des réfugiés, des mineurs isolés, des sans-logis. On peut citer ceux qui, comme Pierre-Alain Manoni à Nice, Cédric Héroux et ses amis dans la vallée de la Roya, mais aussi Martine Landry et combien d'autres, bravent la loi pour assister et accompagner des exilés perdus près de chez eux. Je cite Cédric Héroux, que vous connaissez peut-être, qui a créé la première communauté Emmaüs paysanne au profit de compagnons français ou étrangers, avec ou sans titre de séjour, défendant ainsi le principe d'accueil inconditionnel. On peut citer l'engagement de plusieurs universités, notamment celle de Bordeaux, qui, avec le réseau M, propose des cours de français langue étrangère à des arrivants, avec ou sans papier, ainsi que de nombreux ateliers et un dispositif de parrainage individuel par des étudiants volontaires. On peut citer Didier Sabrou, Jean-François Mola, Cécile Vrignon, juges des référés respectivement à Nice, à Nantes, à Calais, mais aussi Raphaël Le Guillou, premier conseiller au tribunal administratif de Bordeaux, qui ont pris des décisions enjoignant l'État à respecter les lois sur le droit d'asile ou l'aide aux personnes en danger. On peut citer parmi de nombreux autres les bénévoles, les volontaires à Calais de l'auberge des migrants, mais aussi, on l'a entendu tout à l'heure, du Secours catholique, qui depuis 20 ans interviennent auprès des exilés dans le nord de la France en leur apportant aide matérielle et alimentaire, accompagnement et défense des droits. Et puis, les bénévoles de toutes ces associations internationales, nationales, locales, comme la CIMAD, Médecins du Monde, RESF, la Ligue des Droits de l'Homme, CCFD, Terre Solidaire, mais aussi à Bordeaux, Tripote et Mascagne, grands bricoleurs, qui viennent bénévolement effectuer des travaux dans les lieux de vie. On peut citer aussi toutes celles et ceux qui luttent pour demander la fermeture des centres de rétention administrative, les CRA, des prisons où sont enfermés parfois dans des conditions indignes des personnes qui ne sont pas des délinquants. On peut citer ces ONG qui affrètent des navires pour sauver des migrants naufragés au large de la Libye, et notamment les volontaires de SOS Méditerranée qui mènent des missions avec Médecins Sans Frontières sur l'océan Viking. Le 14 février dernier, il y a deux semaines, 84 personnes, dont 58 mineurs non accompagnés, des enfants, ont été secourus. On peut citer les militants de la région de Briançon qui, habitués au sauvetage en montagne, effectuent des maraudes pour sauver des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de franchir les Alpes en plein hiver. Sept d'entre eux étaient traduits en justice pour avoir fait leur devoir d'humanité. Ils ont heureusement été relaxés il y a à peu près un an. On peut citer ces villes et villages accueillants, 123 en France et plus de 750 dans toute l'Europe, qui, à contre-courant des politiques nationales, s'efforcent dans la mesure de leurs moyens et de leurs compétences de développer une autre approche des migrations. Et les habitants de nombreuses autres communes qui se mobilisent pour distribuer des repas, des vêtements, offrent des matelas ou s'organisent pour résister à l'expulsion de migrants réfugiés chez eux. Chaque jour, ils témoignent de la précieuse expérience humaine que leur hospitalité leur a offerte. On peut citer les citoyens ordinaires qui se retrouvent dans les rues, sur les places, pour marquer leur solidarité, qui signent des pétitions et parfois en initie, et qui partout où ils peuvent, sur leur lieu de travail, en famille, entre amis, affirment la nécessité de l'hospitalité. On pourrait en citer mille autres.
Night, and I think to myself,
porteront ta foule. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I want them grow. They learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,